prière d'abord, prions. Merci Père pour cette occasion de nous pencher sur ta parole. Merci de ce que tu nous parles. Parle-nous ce matin par ton esprit au moyen de cette parole. Aide-nous à cerner davantage qui tu es, ce que tu as fait et à quoi tu nous appelles. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, nous allons commencer une nouvelle série. Nous venons d'étudier les 12 premiers chapitres de 1 Samuel. Et puis, donc on va retrouver cette histoire donc, de Saül et de Samuel et de David peut-être l'année prochaine. Donc, on va reprendre. Et là, ce matin, on va nous pencher sur cette lettre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer quelques instants à considérer le contexte de cette lettre, un peu l'histoire derrière cette lettre, pour être mieux en mesure de comprendre ce que Paul veut nous dire et les sentiments qui l'animaient. Alors, où se trouve la ville de Thessalonique? Alors, j'ai une carte, mais en fait, ah, oula, donc... Ouais, donc, je... Est-ce que j'abandonne le PowerPoint? Ouais. Alors, tout en faisant ça, donc je vous invite à trouver dans vos Bibles, donc garder un doigt dans 1 Thessaloniciens, mais à trouver les Actes des Apôtres, le chapitre 17. Voilà, là j'ai... Non, c'est pas bon, ça c'est le masque. D'accord. Voilà, c'est pas mal. Alors, c'est au chapitre 17 des Actes des Apôtres que Luc, l'auteur de ce livre, raconte l'évangélisation de cette grande ville portuaire au nord de la Grèce. Paul y est allé avec Sylvain et Timothée et peut-être d'autres encore. Et c'était lors de leur deuxième voyage missionnaire. Ils sont allés à la synagogue de Thessalonique, ils ont raisonné, ils ont montré à partir des Écritures que le Christ, le roi promis de l'Ancien Testament, tant attendu par les Juifs, devait souffrir, donc c'est le verset 2 du chapitre 17, et que ce Christ qui devait souffrir, était bel et bien l'homme historique de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, celui qui avait été crucifié sous Ponce Pilate, il y a 30 ans, en fait 20 ans auparavant, et que Dieu a ressuscité. Alors ce message, c'est un message qui nous est familier, donc en France, nous avons ce message depuis des générations. Et pour les paroissiens de cette synagogue, c'est un message explosif et franchement impossible. Crucifié, pouvait-il être le roi? Pouvait-il être vraiment celui qui devait venir dans la lignée de David? Pour eux, ce n'était pas à l'ordre du jour. C'était un scandale. Je pense qu'on va abandonner le... C'est bon, hein, donc, parce que sinon, ça perturbe. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quelques-uns des Juifs, ainsi qu'un grand nombre de craignants Dieu, c'est-à-dire des convertis au judaïsme, un certain nombre de femmes de la haute société se sont converties. Ils ont mis leur confiance en le roi bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ. Mais bon, tout ça n'était pas au goût de certains membres de la synagogue qui l'ont très mal pris. Qui était cet homme, Paul, pour diviser la synagogue? Il a débarqué de nulle part. Il a semé la zizanie, il a bouleversé les acquis religieux, sociaux de l'époque avec ce message d'un messie souffrant, un roi serviteur, un roi qui serait le roi des rois. Alors Paul, Sylvain, Timothée, ainsi que ses bébés chrétiens, ont connu bien des déboires, des attaques violentes, des procès, si bien que Paul et son équipe ont dû s'enfuir en plein milieu de la nuit, comme des malpropres. Laissant cette jeune église affronter ses opposants tout seul. Donc cette église est née dans le conflit, dans la détresse, dans la persécution. Et ces jeunes chrétiens ont connu l'hostilité dès le premier jour de la vie, de leur vie chrétienne. Ensuite, Paul et son équipe sont partis, donc ils sont allés à Bérée, et ensuite Paul s'est rendu, lui, à Athènes. En définitive, Paul a dû passer peut-être au moins 3 semaines à Thessalonique, peut-être un peu plus. Et comme un bon père de famille, bien responsable, et comme une mère soucieuse du bien-être de ses enfants, Paul avait besoin de s'assurer que ces jeunes chrétiens, qu'il avait enfantés lui, en fait, dans la foi, qu'ils allaient bien, et qu'ils tenaient ferme dans cette nouvelle foi, face à tous ces détracteurs qu'il a laissés à Thessalonique. Et donc, pour en avoir le cœur net, Paul a envoyé Timothée pour prendre de la nouvelle. Ça s'en voit au chapitre 2. Et comme le chapitre 3 nous montre, lorsque Paul écrit là, cette lettre, Timothée est déjà de retour. Et les nouvelles sont bonnes. Paul est super soulagé que ses chrétiens vont bien. Et je pense qu'il est tellement soulagé que sa première réaction, c'est d'écrire un mot d'encouragement. Voilà notre lettre. Il va reprendre quelques-unes des craintes, quelques-unes des questions de ces chrétiens, mais en gros, il veut les exhorter à continuer à progresser dans la foi et dans la vie chrétienne. Alors si on pense à notre église, à l'église de la Garenne, on ne peut pas vraiment dire que nous sommes en proie à la persécution, pas de toute manière, pas comme celle qu'a connue l'église de Thessalonique. Nous vivons une époque, dans un sens, étrangement tolérante. C'est vrai, beaucoup d'églises de par le monde vivent des moments de détresse, de persécution. Mais quand même, cette lettre va être d'une grande pertinence pour nous. Nous avons aussi beaucoup de progrès à faire dans la foi, dans la vie chrétienne. Et qui sait, on va peut-être aussi rencontrer des obstacles à l'avancement de l'évangile. Alors, cette lettre à l'église de Thessalonique, c'est la première lettre dans le Nouveau Testament à une église européenne. Et ce matin, nous allons être des témoins de ce que Paul pense de cette église européenne. Il faut les encourager en leur parlant d'abord de l'authenticité, donc c'est le premier point, l'authenticité, les labels de cette authenticité, et ensuite la source de cette authenticité. Donc on a premièrement les labels de cette authenticité, et ensuite la source. Alors le premier verset nous dit ce que Paul pense de cette église, donc verset 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Ben, cette église se trouve à Thessalonique, mais pour Paul, ce qui importe, c'est qu'elle se trouve en Dieu. Voilà sa vraie identité. Cette église est une communauté qui appartient au Dieu trinitaire, voilà, en Dieu le Père, en Jésus le Fils. Donc c'est 20 ans après la résurrection de Jésus, mais déjà c'est très clair que les chrétiens considèrent Jésus comme Dieu le Fils à côté du Père. Et dans un instant, nous allons voir l'Esprit Saint qui est bien présent dans ce passage. Alors, nous sommes à l'église de la Garenne, nous sommes ici dans cette ville, mais notre identité se trouve en Dieu. Notre enracinement, notre ancre, notre identité se trouve en lui. C'est notre première identité. Et comme l'église des Thessaloniciens, nous sommes, comme la salutation de Paul nous l'indique, au bénéfice de sa grâce, de sa paix. Nous sommes ses enfants rachetés, acquis par le sacrifice de son Fils. Notre pardon est gratuit, pure grâce. Notre paix, notre réconciliation avec Dieu est solide, elle est sûre elle est durable. Alors tout ce qui brille n'est pas or, ça c'est clair, on sait aussi que l'or pur n'existe pas. C'est possible d'avoir un or très très pur, mais il y a toujours une part, ne serait-ce que minime, d'impureté. On mesure l'or en carats, je crois que c'est comme ça, ça se dit, oui, en carats. Donc 24 carats, c'est le label de l'or presque pur, à 99%. Label de 12 carats, ça veut dire que voilà, c'est 50% de l'or, d'or. Alors si vous avez peut-être une bague ou un bracelet et vous grattez dessus, et l'or se transforme d'abord en argent et ensuite en plastique, c'est que vous êtes fait avoir. Vous avez acheté un faux. Ou peut-être votre fiancé vous a acheté une contrefaçon. Dans un monde d'arnaqueurs, cette recherche d'authenticité est très importante. Parce que nous ne voulons pas de contrefaçon, nous voulons de l'or pur. Nous voulons le produit authentique. Nous voulons des gages de qualité. Parce qu'on veut être sûr de ne pas se tromper. Alors Paul, il veut rassurer ces Thessaloniciens qui sont en proie à la persécution, à la moquerie, des détracteurs qui mettent en cause la bonne nouvelle. Ben, il veut les rassurer qu'ils sont devenus des chrétiens authentiques. Et que le message qu'ils ont reçu est un message authentique aussi. Et que ceux qui ont annoncé ce message ne sont pas des arnaqueurs. Quand Paul pense à cette église à Thessalonique, son cœur déborde de reconnaissance envers Dieu. Et cette reconnaissance le pousse à prier. La prière découle de cette reconnaissance. Et Paul ne peut pas s'empêcher de rendre grâce à Dieu quand il se souvient de cette église. Parce que pour Paul, cette église était vraiment une église authentique. Paul en est convaincu parce qu'il a vu ses labels d'authenticité. Il a vu des preuves comme quoi cette église se trouve véritablement en Dieu. Alors les gages de qualité étant sont versets 3 et 4, la foi, l'amour et l'espérance. La foi, l'amour et l'espérance. Alors dans la Bible, il y a comme trois trinités. La Sainte Trinité, la vraie Trinité en quelque sorte, le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a aussi une fausse Trinité, le monde, la chair et le diable. Mais il y a aussi cette Trinité chrétienne, la vie chrétienne, la foi, l'espérance et l'amour. Et dans les lettres de Paul, Paul revient assez souvent sur ce thème, sur ces trois vertus qui caractérisent l'Église authentique, les chrétiens authentiques qui connaissent le Seigneur, qui ont mis leur foi en Jésus, le roi serviteur. Mais ce ne sont pas trois vertus abstraites ou statiques. Soigneusement, Paul décrit chacun de manière active. Déjà, la foi travaille. La vraie foi, la foi authentique qui ne s'appuie pas sur ses œuvres, mais sur l'œuvre de Jésus seul, n'est pas simplement une croyance intellectuelle stérile, mais elle est fructueuse. Elle dépend pas de ses œuvres, mais elle œuvre quand même, elle travaille. Pas pour gagner quoi que ce soit, on l'a déjà en Christ, mais elle se met à l'œuvre. Dans sa lettre à l'église de Galatie, Paul dit que ce qui importe, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui se traduit par des actes inspiré par l'amour. La foi travaille. La foi se transforme en amour et l'amour se donne de la peine. Et ensuite, cette espérance nous fait travailler aussi, nous fait persévérer, bon an, mal an, malgré la souffrance. Elle nous fait fixer nos yeux sur le Seigneur, sur le Sauveur. Parce que l'amour sans les œuvres, c'est du sentimentalisme. Et la foi sans l'amour, même le diable peut souscrire à une confession de foi comme ça. L'espérance qui ne fixe pas ses yeux sur Jésus, c'est simplement l'espérance d'un optimiste un peu aveuglé qui espère que tout va s'arranger, qui finalement se découragera assez vite quand la souffrance et les coups bas de la vie arrivent. C'est vrai, la conversion ne nous renferme pas sur nous-mêmes, mais elle nous conduit vers Dieu. Elle nous conduit à nous attacher à Dieu par la foi, de vouloir l'aimer, de vouloir l'adorer. Elle nous envoie vers les autres dans le service d'autrui. Elle nous pousse en avant vers le but qui est Jésus-Christ lui-même, vers cette nouvelle création. Ces vertus sont pratiques, ils sont visibles, ils donnent une église qui s'attache à la parole, qui s'attache aux paroles de Jésus, ce bon berger. Ils donnent une église qui a envie de partager cette foi qui libère. Ils donnent une église qui prend le temps d'aller vers l'autre, de montrer de la compassion à ceux qui souffrent, d'écouter celui que personne d'autre ne veut écouter, d'inviter celui que personne d'autre n'invite ou qui ne peut pas inviter en retour. C'est une église qui montre de la générosité, bien sûr, dans la discrétion, avec ses biens, avec son temps, avec son énergie, qui se rallie autour de ceux qui passent par des moments difficiles, qui rend visite à celui qui est à l'hôpital ou à ceux et celles qui n'ont pas la possibilité de sortir souvent. Et ces vertus dans une église qui persévère, quand bien même les autres se moquent d'elle ou qui ridiculisent la foi. Paul écrit cette lettre à l'église de Thessalonique, mais il a écrit cette lettre aussi à l'église des Garénois. Parce qu'à la fin de cette lettre, Paul dit de manière très très formelle, je vous en conjure, par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Voilà, c'est notre lettre aussi. Et Paul veut nous encourager à poursuivre la foi, l'espérance et l'amour. On peut se poser la question, où est-ce que nous en sommes? Paul nous écrit pour que nous progressions davantage. Alors, Paul, il est dans la joie quand il pense à cette église, parce qu'il sait que cette église est vraiment caractérisée par ses vertus. Ils sont authentiques, ils sont de l'or pur. Paul en est tellement persuadé que, verset 4, il va jusqu'à dire qu'il est sûr de leur élection, qu'ils ont été choisis par Dieu. Donc, verset 4, « Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » C'est vrai que cette doctrine, on l'appelle la doctrine de l'élection, le fait que Dieu choisit son peuple, l'initiative vient de lui et non pas de nous, c'est quelque chose qui nous reste un mystère. Nous avons parfois, nous avons du mal à percer ce mystère, nous ne pouvons pas vraiment le comprendre. Dieu choisit parce qu'il choisit d'aimer. On peut penser à l'Ancien Testament, Dieu a choisi Israël, non pas parce qu'Israël a fait quelque chose ou parce qu'Israël était un grand peuple. Au contraire, la Bible nous dit qu'Israël était le plus petit de tous les peuples. Dieu choisit d'aimer. Et Paul sait que les Thessaloniciens sont aimés de Dieu, que Dieu les a choisis. Non pas parce que Paul aurait accès à tous les mystères de Dieu, mais plutôt parce que Paul voit, il voit cette foi qui travaille, il voit cet amour qui se donne de la peine les uns pour les autres, et cette foi qui espère en Jésus. Et aussi parce qu'il a vu l'œuvre de la parole parmi eux. Voilà, donc un autre deuxième point, donc la source de leur authenticité. Versets 5 à 10. On voit au début du verset 5 le petit mot « car » ou « en effet », donc selon vos versions. Paul est persuadé de l'authenticité de cette église. Il est persuadé que cette église est vraiment choisie de Dieu. Parce que, car, en effet, Paul se souvient de l'œuvre de la parole parmi eux. L'Église et la parole, l'Église et l'Évangile vont toujours de pair. L'Évangile crée l'Église. L'Église répand l'Évangile. L'Église se soumet à l'Évangile. L'Évangile transforme l'Église. Et dans ce passage, nous voyons également que l'Esprit et la parole vont toujours de pair. Parfois, on a parfois tendance à divorcer la parole de l'esprit. Mais là, Paul lui montre qu'ils appartiennent vraiment ensemble. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, il a dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Alors, si les Thessaloniciens sont marqués par la foi, l'amour et l'espérance, ce n'est pas parce qu'ils font semblant ou ils imitent simplement des gens autour d'eux ou ils ont fait des résolutions pour être des gens meilleurs. Non, c'est parce qu'ils ont accueilli la parole de Dieu. Verset 5. Car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Les Thessaloniciens n'ont pas simplement souscrit à une liste de dogmes. La parole est venue avec puissance, avec la puissance de l'Esprit, avec conviction. C'est parce que l'Évangile va jusqu'au cœur. Il se saisit de nos émotions, peut-être de manière différente selon des personnes, mais il finit par atteindre nos tripes. Il nous rend humbles, contrits, lucides sur notre péché. Il nous conduit à nous saisir de la grâce, du pardon, cet acquittement, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'Évangile nous bouleverse, il chamboule nos certitudes, il révolutionne notre cœur endurci. Il nous fait entrer dans la présence de Dieu même. Mais encore une fois, Paul ne décrit pas une expérience sublime qui nous ferait planer à 15 000 kilomètres, qui nous extrairait en fait du monde, de la société qui nous entoure. Qu'est-ce qui se passe? Les Thessaloniciens sont devenus aussitôt des imitateurs de Paul, de ses amis, comme eux sont des imitateurs de Jésus-Christ. Comment? Verset 6. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En recevant la parole, au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit-Saint. Vous savez que le fait de recevoir la parole, de mettre sa confiance en les promesses de Dieu en Jésus-Christ, tout ça ne va pas nous procurer l'estime de nos contemporains. Il ne va pas nous donner des richesses, il ne va pas nous donner une vie peinard sans problème. Mais l'Esprit, la parole, vient avec la joie de l'Esprit-Saint. Voilà, c'est un des fruits de l'Esprit-Saint. Ces tribulations sont incompréhensibles à quelques égards. Pourquoi Dieu permet ces choses? À quoi ça sert? Ailleurs, on voit que ces tribulations affinent notre foi. Elles nous obligent aussi à fixer nos yeux sur Jésus. Et comme Jésus lui-même a dû fixer son regard sur la croix, sur la souffrance, avant de rejoindre son Père, il nous invite aussi à faire de même. Et c'est exactement ça ce que les Thessaloniciens ont fait. Combien de fois avez-vous entendu parler des chrétiens qui, peut-être qui passent par des moments très difficiles ou qui sont à l'hôpital ou qui sont face à la mort ou peut-être simplement des épreuves au travail et tout en souffrant, ils montrent une certaine paix intérieure, une joie indicible, je pense qu'on peut le dire comme ça, un contentement malgré les circonstances parce que leurs yeux regardent déjà la maison de la Père. Paul dit que les Thessaloniciens, il leur dit que l'œuvre de l'Esprit, au moyen de la parole, a fait d'eux un peu comme des stars en Macédoine et en Achaïe. Une source d'étonnement et de questionnement pour la société plus large. Parce que, verset 8, la parole a retenti de chez eux. Et leur foi s'est fait connaître en tout lieu. Cette église n'a pas pu s'empêcher de parler de Jésus, de ce roi serviteur, de ce Messie qui a souffert, du Dieu vivant, du Père généreux qui a donné son Fils et qui a changé leur vie. Thessalonique est une grande ville portuaire. Sans doute, les paroissiens de cette nouvelle église étaient très actifs dans la vie commerciale, sociale, politique de la ville. Ils ont sans doute saisi des occasions pour parler autour d'eux de cette nouvelle foi. Peut-être sur le marché, dans le port, à la maison. Ils étaient convaincus que ce message du Dieu vivant, du juge divin qui pardonne, du roi des rois, était une grande pertinence pour tous, juifs ou non-juifs, riches ou pauvres, esclaves ou hommes libres, parce que tous auraient à le rencontrer un jour. Mais ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que le meilleur moyen de communication n'était pas ce qu'ils ont dit eux-mêmes, mais c'est ce que les gens qui les ont observés ont dit par la suite. En verset 8, nous lisons que leur foi s'est fait connaître en tout lieu, si bien que Paul et ses coéquipiers n'avaient plus besoin de l'annoncer. Paul a dû commencer en disant, voilà, je veux vous annoncer le message de l'évangile. Et les gens ont dû se dire, ah tiens, mais ce n'est pas ça le message qui a bouleversé la vie des Thessaloniciens. Ah, vous parlez du Jésus en qui les Thessaloniciens, quoi? Parce que, verset 9, les gens parlaient autour d'eux de cette conversion, de la conversion de ces Juifs à Thessalonique, ces craignants Dieu, ces femmes de la haute société. La parole était audible. Mais aussi, il faut le dire, la parole était visible. Ça fait quelques mois que Jean-Joël essaie de m'expliquer à quoi ressemble le baptistère de l'église de Nîmes. C'est un baptistère un peu particulier. C'est vrai, il faut en penser parce qu'on veut faire un baptistère dans la nouvelle salle de culte. Mais moi, j'avais du mal à visualiser comment, à quoi il ressemble en fait ce baptistère. Je suis un peu lent comme ça, donc j'ai besoin de voir des choses. Et puis Jean-Joël a dû dessiner un petit dessin en fait du baptistère. Heureusement aussi, dans la semaine, j'ai reçu une photo. C'est vrai que les gens ont besoin d'entendre l'évangile. Les Garinois, les Nantériens, les gens autour ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous devons apprendre, et je pense que nous avons du chemin à faire, nous devons apprendre à leur raconter cette bonne nouvelle de manière compréhensible, de manière claire, saisissante même. Mais je pense aussi que les Garinois, les Nantériens, les gens autour ont besoin de voir l'évangile à l'œuvre. Les sociologues parlent de structure de plausibilité. L'Église, la communauté des croyants, est en quelque sorte la structure de plausibilité de l'évangile. L'Église montre, elle démontre les effets bienfaisants, libérateurs de l'évangile dans leur vie de tous les jours. Et en faisant ça, en vivant, en montrant au monde ces effets bienfaisants de l'évangile, nous montrant aussi la plausibilité de la foi. Cette foi marche, cette foi est authentique. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu, ces gens en Macédoine? Alors Paul nous donne le récit d'une conversion, mais aussi d'une vie chrétienne exemplaire. Versets 9 et 10, on touche à la fin. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alors, en recevant la parole, trois choses. Un rejet décisif des idoles. Ensuite, ils se sont mis à servir Dieu. Et troisièmement, ils se sont mis à attendre patiemment, mais activement, le Sauveur. Et ça, c'est une description assez succincte de la vie chrétienne. Rejet des idoles, c'est la foi. Ils se sont mis à servir le Seigneur, l'amour. Ils attendent patiemment le retour de Jésus, l'espérance, ses gages de qualité, les labels d'authenticité. Les Thessaloniciens ont rejeté leurs idoles. Dieu les a libérés de ce culte indigne, dégradant des faux dieux. Des faux dieux qui sont rien, qui sont des mensonges, qui sont morts, qui sont impuissants. Et ça pour qu'ils puissent servir le Dieu qui est vrai, qui est vivant et qui est puissant, le créateur de toutes choses. Le fils d'un ami à moi donc, et sa famille sont missionnaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, ils sont là dans une tribu, ils sont là depuis à peu près 5 ans. Et cette tribu n'avait jamais entendu parler de l'évangile. C'est vraiment la première fois qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Et avant, ils pratiquaient une religion animiste. Donc, ils croyaient vaguement en un Dieu créateur. Mais en fait, leur vie était rythmée par la crainte des esprits. Il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas aller là-bas, de peur que l'esprit chamboule leur vie. Mais lorsqu'ils ont accepté la bonne nouvelle du Dieu vivant, du roi serviteur, le message de ce juge divin qui pardonne, ça c'était à peu près il y a 18 mois, la vie de bon nombre d'entre eux a été bouleversée. Je pense que 2/3 du village s'est converti. Ils n'avaient plus peur des esprits. Ils étaient libérés de cette crainte dégradante et humiliante. Ils se sont mis à servir le Seigneur. Là, aujourd'hui, peut-être même aujourd'hui, ils sont en train d'apporter l'évangile au village. Il y a plusieurs villages à côté. Donc, ils sont en train d'y aller. Et donc, ce n'est plus les missionnaires, mais c'est les villageois qui racontent l'évangile au village à côté. Et on m'a dit aussi que leur vie familiale a été transformée. Leurs relations ont été bouleversées. La parole est à l'œuvre en Papouasie. Il y a une église authentique. Ça, on le sait, par la foi, par l'amour et par l'espérance de ces chrétiens. Et plus près de chez nous, l'évangile peut libérer aussi de nos idoles. Alors les idoles modernes se déguisent, se camouflent autrement, mais elles sont tout aussi actives. Une idole, c'est quelque chose, en gros, qui prend la place de Dieu, un substitut pour Dieu. C'est bien sûr un substitut bien médiocre, impuissant, mort, qui est incapable de donner la vie ou de donner l'espérance. Mais une idole est quand même capable de nous prendre en otage, d'exiger notre allégeance, de nous ôter la liberté, la vie. Et aujourd'hui encore, l'évangile peut nous libérer des idoles du matérialisme, de l'ambition égoïste, de l'addiction, de la dépendance, dans toutes ses formes. L'argent, l'approbation des autres, la convoitise sexuelle ou la convoitise, les drogues et ainsi de suite. L'évangile vient dans la puissance de l'esprit pour nous libérer et pour faire de nous des serviteurs du Dieu vivant, mais aussi des serviteurs des uns des autres. Des gens qui aiment à l'instar du Sauveur qui nous a aimés. Ce Sauveur qui revient pour nous sauver du juste jugement. Donc à la fin du verset 10, on voit la colère. Donc il nous sauve de cette colère. Alors en guise de conclusion, cette transformation montre l'authenticité de notre foi. Elle est la structure de plausibilité qui permet aux gens de voir l'évangile à l'œuvre. Et Paul est dans la joie parce que les Thessaloniciens, qu'il avait lui-même amené à la foi, poursuivent cette foi, cet amour, cette espérance. C'est une église authentique. Et moi, je pense que je peux dire que je suis content de faire partie d'une église authentique aussi. Je remercie le Seigneur pour votre foi, votre amour, pour votre espérance. Parce que, à vous regarder, ça m'aide moi aussi à m'accrocher aux promesses du Seigneur, à aimer mes frères et sœurs en retour et à attendre le retour du Seigneur. Paul nous invite ce matin à progresser encore et davantage, à ne pas rester sur nos lauriers, sur nos acquis, il y a des acquis, mais à travailler davantage, à garder ce cap, ayant une foi qui travaille, un amour sincère qui se donne de la peine les uns pour les autres, pour nos frères et sœurs, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en parole et en acte, et de fixer nos yeux sur le Seigneur, de garder nos yeux rivés sur Jésus, l'auteur de notre foi, et celui qui nous sauve de la colère à venir. Je vous invite à prier. Prions. Merci Seigneur pour l'exemple de cette église à Thessalonique. Merci aussi pour la persévérance des apôtres, pour Paul qui nous a écrit cette lettre aussi. Seigneur, merci pour cette parole vivante et vraie, pour l'esprit qui a été actif dans nos vies, qui nous a changés, qui nous a donné cette espérance, qui nous a appris à nous accrocher aux promesses en Jésus. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, de nous aider à poursuivre cette voie, à nous garder dans la voie de la foi. Aide-nous aussi à faire des progrès en termes d'amour, en ce qui concerne l'amour fraternel. Aide-nous cette semaine, Seigneur, à nous donner de la peine pour servir, pour te servir et pour servir nos frères et sœurs. Et garde-nous aussi avec nos yeux fixés sur Jésus. Aide-nous cette semaine à regarder en avant pour voir ce qui nous attend en lui. Au nom de Jésus. Amen.